Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 2 septembre 2006, c'est encore l'été, il fait nuageux, il fait pas si chaud et vous écoutez la radio comme tous les samedis. FMR ouvre avec les magazines, c'est le supplément week-end, BD, cinéma, télévision qui commence de suite, puis le cahier du sport à peu près vers
13h30, voilà.
Non fais gaffe, je veux pas qu'il arrive trop tard, hein, quand même, il faut réparer sous les machines, vite hein. Puis à partir de 15h du mix avec, mais quelqu'un m'a piqué le Velada.
Ah oui, le menu a encore disparu, qu'est-ce que c'est que ce...
Bon, et ben en clair, vous aurez du reggae, vous aurez du rap, vous aurez du rock, vous aurez du punk, vous aurez de l'électro complètement barré, vous aurez de la drum and bass, et ceci en direct et en public jusqu'à 5h du matin, FMR 89.1 MHz, c'est l'intégrale, on vous l'a fait la totale, et puis voilà, et de toute façon c'est connu, on est la poubelle des radios, mais voilà, on sait se démerder, on est des vrais, on est des pros, on est des gros, on est 25 ans d'indépendance.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Tu vas bien?
Très bien, je reviens de vacances, écoute, tout bronzé.
Moi je suis encore dans mon chantier avec le cric et tout le reste. Il y a même du sport qui arrive en catastrophe. C'est trop tard, on a lancé l'antenne. Et pour le coup, on va foutre une bombe.
I bet it's a lyric, deeply embedded into his head. It's conniption, convulsion, conjured by motion. I said it orphan, it's orphan, like any orphan. I'm tossing out from the field. You see, it's the international slicer, monster slasher, Paul Lasser. Section wrecking like Tekken, karate fight, rhyming, repping. Move out with special protection, my special move. My spinning lash, I rotation the words into a boomerang. Retrieving the thing, deadly incision, blood sucking vampire bat fang. Show up Bay Area werewolf in London, around the UK. Well, the wolf, how will eat shit and don't be away. My mangle style deformed the artist, leaving his Lexus in his Lexus with an ugly bra, smelling like Nexus. Using who matches, smoking Marlboros. AIDS infectious, weighing less than your gold necklace. She'll share the needle, I know. I'm not addicting and sickening. That's why I keep on inflicting and return. Different human being, each ripping. Terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-I-S. Terrorist, 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 terrorist. I'm after everybody. I am the terrorist, terrorist, terrorist. Your pants and rope. The terrorist! Kinda like an acrobatic fall. Move funky through the airborne track. And rumor, watch the crowd split apart. Crack back, bust, blindside shot. You ain't seeing, but you feeling. Impact object like a rock. My words rolled up in sound. Torch like Randy Johnson, heat off the mound. I'm throwing down like Westbrook to his teammate when he got him hand down on the ground. Running around, stretch in the field. Deep on your corner, safety always vice protection. Your shield gets blown to smithereens. Angel dust, shoot up for the elephant. I scoop quick like souped up Hondas. Got my partner's ride from the Philippines. What I mean? The difference between me and these rappers, I kick like nobody else's. I switch them between, leaving them puzzled. I dazzle and dazzle, moving my presence amazing.
Terrorist, terrorist, terrorist. T-E-R-R-O-I-S. The terrorist, 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 terrorist.
Walk that back street curve.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-I-S. The terrorist, 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 terrorist.
Bring your butt to terror.
Il y a du sport qui est en train de s'extasier sur la propagande audiovisuelle arabe et piémontaise. Et le morceau que vous venez d'entendre, donc le morceau DJ Vadim, I Am a Terrorist, qui date de 99 sur le label Ninja Tune. Il faut savoir qu'il ne faut pas l'avoir en sonnerie portable ou dans son baladeur. Bah oui, si vous prenez l'avion, même à Hong Kong, il y a une fille comme ça, elle avait son portable qui a sonné, et le morceau c'était I Am a Terrorist. Et donc elle s'est retrouvée à poil dans le lobby de l'aéroport. On lui a dit que c'était pas bien du tout. Donc je rappelle les règles de base quand vous montez dans un avion actuellement. Il est interdit d'être basané, d'être légèrement, on va dire, d'avoir des désordres intestinaux. Il est interdit de répondre au téléphone dans un avion, même encore à l'arrêt. Il est interdit de changer de place. Il est interdit de discuter bruyamment avec sa femme. Il est interdit de porter un voile pour les dames, même si vous êtes, attention, tenez-vous bien, une religieuse romaine. Tout ça, c'est... ça peut vous valoir à chaque fois, et ça a été le cas, tout simplement des petits désagréments dans l'avion. Bravo, magnifique, magnifique. C'est le principe de l'entreprise terroriste, c'est vous foutre dans la merde. Du sport vient d'arriver. Bonjour Dus.
Bonjour.
Ouais, c'est sympa, merci. On parle pas la bouche pleine. J'ai juste une chose à dire, chers amis auditeurs. C'est le supplément week-end, c'est l'émission numéro 81. Et nous voici deux. Amis auditeurs, amis auditrices, nous voici de retour après un été chaotique en émission et aussi en billets. Mais nous voici de retour, fidèles au poste, les lecteurs chargés et les chroniques armés pour une troisième saison du supplément week-end de Radio FMR. Le magazine quasi-culturel le plus à peu près esque de la bande FM, l'un des tout premiers podcasts radio en francophonie, le programme qui n'a pas peur de vous abreuver en connaissances inutiles, et celui, et ceci sur un ton exclusivement amical. Et le ton, c'est bon. C'est vous dire combien vous êtes formidables, amis auditeurs et auditrices, à vous escrimer à décrypter les gargouillis coincées entre deux radios à haute valeur culturelle que sont RTL2 et Radio Muret. Nous avons entamé donc maintenant, dès à présent, notre rentrée avant tout le monde, télévision commerciale inclus. Hélas, honte à nous, nous avons été doublés par la Star Academy, mais ça on s'en fout un peu.
Hein, et par ouais. Prison Break.
Et NCIS.
Merde.
Et... Il l'a pas dit, NipTok. Cette année sera...
NipTok, ça a continué pendant les vacances.
À l'aise, heureusement.
Ouais, mais là, ils ont lancé la troisième saison hier. Cette année sera exceptionnelle. FMR fête les 25 ans de son existence. Et le supplément week-end sera là pour bien vous le faire savoir. Pour supporter le choc de l'organisation de cet événement exceptionnel, le studio a été refait à neuf. Avec par exemple un rouge antenne, enfin une petite lampe de chevet blanche qui s'allume quand les micros sont verts.
À part les micros, je veux dire, ouais, mais il faut, mais il faut l'interrupteur.
Non, mais ça fait épais.
Ah, voilà, dans la gueule,
ça
merci.
Ça fait depuis Perpète qu'ils y sont, ça.
Ouais.
Attends, 3, 4. Ça s'allume. Ça s'allume, c'est génial.
Chouette, on a une lampe qui fait de la chaleur maintenant.
Et qui m'aveugle dans les yeux, je peux plus lire le prompteur, merci. Merci de le couper, voilà. Avec un nouveau site web qui tarde depuis un an à être mis en place. Peut-être un peu trop bleu, à ce qui paraît. Avec aussi en préparation des jingles qui auront du mal à passer avec la censure du comité autoproclamé antenne. Et comme je fais partie du comité, ça passera malgré tout, avec un flingue s'il le faut. On a même refait la tuyauterie de l'immeuble avec son canal d'évacuation des eaux usées qui passait avantageusement juste derrière le réalisateur, c'est-à-dire juste derrière moi, et qui depuis a été déplacé dans la salle des archives à côté là. Voilà, ici, hein, et isolé à la laine de verre, s'il vous plaît. Pas seulement pour que le cacamou du voisin du quatrième ne dérange plus le magazine du théâtre, mais aussi pour que la septuagénaire du sixième n'entende plus Breakbeat Experience tous les samedis drum and bass de 22h à 5h du matin. Un travail de plomberie qui, heureusement, n'a pas laissé de fuite. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va vous parler d'infiltration et de politique fiction. Thomas, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ?
Eh bien, on a prévu une adaptation de série télé avec des flics qui sont bien habillés, mais sans alligator.
D'accord, t'as écouté la dernière émission, j'espère.
Oui.
Ouf. Je sais, elle est pas en ligne et tout, mais Thomas a pu la récupérer. Attends. Ça tombe bien parce que Thomas avait prévu beaucoup de sujets cette semaine, et contrairement à ce qui a failli arriver en avril avec une spéciale jeu vidéo, il a dit « Oups, j'ai peut-être fait un peu beaucoup, on va un peu se calmer ». Ça tombe bien.
C'est marrant que tu parles de jeux vidéo d'ailleurs.
Non, d'accord, ça m'inquiète. Ouais. Bon, alors dans ce cas-là, je rebondis sur le cinéma avec Darren Aronofsky, qui est le réalisateur de Pi et de Requiem for a Dream, qui présente au Festival du film américain de Deauville son nouveau film, The Fountain, qui sort en bande dessinée en France chez Emmanuel Proust Édition. Et donc, il y a une dédicace vendredi 8 septembre à 18h de Darren Aronofsky. Il sera pour présenter sa bande dessinée. C'est au Palais des Festivals à Deauville. Tu peux, je pense, Thomas, encore récupérer à temps...
Oui, un billet pour aller l'Ico. Ouais, mais de toute façon, ça dure entre 18h et 19h. Donc, à mon avis, c'est un peu mort.
Donc le film sort le 7 septembre, sort le 7
septembre, non,
est présenté le 7 septembre et il sortira en France en décembre. À savoir donc que la bande dessinée adaptée du film, eh ben, elle est dessinée par Cat Williams, qui est un peintre et illustrateur de référence. La bande dessinée illustrée, par exemple, il a fait Tell Me Dark, il a fait Blood, il a fait plein de BD de ce genre. Mais j'ai dit à Thomas ce matin, juste avant de partir, je suis un vil. Fais-moi une petite bio de Darren Aronofsky. Enfin, on n'oubliera jamais son nom.
Bah, en guise de petite bio, on peut juste parler un peu de ses films précédents, parce que Pi, ça avait été quand même un énorme choc en noir et blanc.
Ouais, puis il était très jeune à l'époque, alors bon.
Oui, oui, oui. Et bah, déjà, c'était l'histoire d'un mec qui essayait de trouver le sens caché du chiffre Pi, de la valeur Pi, et qui était pourchassé par une secte qui voulait décrypter le sens profond d'une secte juive, d'ailleurs. Où il pouvait expliquer toute la vie avec des nombres mathématiques.
Ça s'appelle aussi la Kabbale.
Voilà. Et également par une organisation qui voulait décrypter le sens de la bourse. Et c'était assez bien fichu, et avec une bande-son qui tapait sa race aussi. Et son deuxième film aussi, c'était Requiem for a Dream. C'était un film qui traitait de la dépendance, avec également la musique qui a été reprise dans toutes les bandes annonces et tous les sujets possibles et imaginables à la télé, avec l'excellente Hélène Burstyn dedans, et Jared Leto, Jennifer Connelly, enfin tout du beau monde. Et on peut que regretter d'ailleurs qu'il ait que son adaptation qu'il voulait faire de Batman Dark Knight avec Clint Eastwood soit cassé la gueule, parce que franchement c'était vraiment burné. Ouais.
Surtout qu'il pouvait encore le faire à ce moment-là, Clint Eastwood. Maintenant il commence vraiment à, on sent les plus de 15 ans de différence par rapport au personnage de la BD.
Oui, et pourtant, Dark Knight c'est un quinquagénaire, hein. Clint Eastwood maintenant ça fait pas mal de temps qu'il a dépassé.
Il a 55-60 ans.
Il y a aussi le fait que l'adaptation de Requiem for a Dream, c'est un bouquin de Selby.
Ouais.
Et il faut savoir que les bouquins de Selby sont adaptables, c'est un petit peu difficile quand même. Et lui, il a quand même bien réussi, quoi. Je veux dire, le résultat est quand même pas mal. Alors que bon, c'est le genre de bouquin, accroche-toi pour essayer d'adapter ça au cinéma. Lui, il a bien réussi quand même. Hein. Il y avait eu un autre film, un autre bouquin de Selby, c'était Last Exit from Brooklyn, qui a été adapté au cinéma, mais il y a dans les années 80, je crois, hein, qui avait donné un petit film pas mal, hein, vraiment sympathique, enfin qui se rapprochait bien de l'esprit du bouquin. Et bon, là, il a quand même bien réussi son truc avec Requiem for a Dream. C'est quand même chapeau, hein, pour ça, quoi.
Ouais, et puis deux mots sur le dernier film, sur The Fountain. On peut déjà voir la bande-annonce sur le net, et c'est quand même une des bandes-annonces, pour ma part, qui est une des plus fascinantes qui soit sur le marché pour l'instant, parce que c'est vraiment, tu te prends ta claque déjà pour le teaser, qui était très énigmatique, et maintenant la vraie bande-annonce qui se développe un peu plus, et là tu te prends vraiment ta claque, hein. Au point de vue visuel, au point de vue même narration, tu te dis, mais le mec, mais il a une inventivité, mais c'est un des réalisateurs phares américains aujourd'hui, c'est vraiment un truc à voir, je pense.
Darren Aronofsky, The Fountain, le film sort donc en décembre, et normalement la bande dessinée devrait arriver très très vite dans les bacs chez Emmanuel Proust Édition. Midi 14 minutes et 7 secondes et 778 millièmes sur l'horloge atomique de Radio FMR. Vous écoutez le supplément week-end et on continue dans les bandes dessinées. Original reflecting in your hair. Les Nouveaux Tsars, la troisième tome de la série de Jean-Yves Delitte, vient d'arriver dans la collection Graphica chez Glénat et s'intitule Les Fous de Bakou. C'est une série ambitieuse de politique fiction, celle qui d'une Russie qui a du mal à assumer les ruines de l'URSS et de tous les petits états qui traînent autour. Dans le premier tome, c'était le trafic du plutonium militaire de l'armée rouge que Yuri Vladimir tente de suivre en tant qu'agent de l'AIEA. Vous savez, l'agence internationale à l'énergie atomique dont il est tellement question en ce moment. C'est un hasard. Troisième tome, c'est sur les rives de la mer Caspienne que l'inspecteur est envoyé. Un endroit que ses supérieurs souhaitent plus calme et où il ne va pas trop faire de vagues. Hélas, ce pauvre Yuri, excusez-moi, je faisais du Shakespeare. Dès le petit matin, un avion de tourisme qui s'écrase dans le port pétrolier, causant une formidable explosion avec un tanker, coulant une barge de fût de déchets nucléaires. Coup de bol, pas de fuite. Mais pourquoi ce petit avion s'est-il écrasé? Le pays n'est-il pas, finalement, aussi calme que veut l'imposer l'autorité? Une guérilla d'inspiration religieuse sévit dans l'arrière-pays et il semble bien que l'important accord pétrolier avec une très grosse compagnie pétrolière entre le dictateur et donc un consortium anglo-américain attise les braises. Comment on peut faire éclater la vérité à un enquêteur international de rang particulièrement modeste quand il est plombé par une hiérarchie bureaucratique et une réelle politique locale particulièrement brutale? Comment enquêter quand ses confrères de l'agence préfèrent fermer les yeux pour garder leur petite tranquillité, quand la police ne semble pas s'embarrasser pour faire taire les gêneurs, que l'opposition ne semble pas mieux armée de bonnes intentions, que les multinationales se déchirent les restes tant que l'or noir coule à flot? Que reste-t-il sinon qu'à constater les dégâts, éviter les coups tordus et s'en sortir vivant? La corruption est aussi dangereuse que la radioactivité. Scénaristiquement, c'est carré. En fait, la bande dessinée fait oublier que la fiction est sûrement dépassée par la réalité. On a passé dans cette émission une interview de Jean-Yves Delitte, le créateur de la série Les Nouveaux Tsars, qui exprimait avec fougue sa passion sur le sujet particulièrement glaçant. Il est intéressant de noter que par la BD, on puisse aborder ce genre de sujet très sensible et inquiétant à juste titre. Le point de vue du personnage qui est vu comme un traître par tout le monde, alors qu'il fait tout pour rester intègre, est à la fois cynique et effrayant. L'URSS est mort, vive Les Nouveaux Tsars. Le troisième tome vient de sortir, Les Fous de Bakou, c'est de Jean-Yves Delitte et c'est dans la collection Graphica chez Glénat.
Cut them up like regular chickens.
Sure, just cut them up like regular chickens.
Va calmer un peu le jeu, je pense. Ah, j'ai une belle voix de basse là, un truc magnifique. Je devrais faire des bandes annonces, je crois. Georges Lebès, le deuxième tome de Pema Ling vient de sortir, c'est dans la collection Repérage chez Dupuis, ça s'appelle Les Guerriers de l'Éveil, et donc on suivait le destin de Pema Ling, le personnage titre, qui suite au massacre de son village, la petite fille a été laissée par son oncle Sonam, au bon soin des moines bouddhistes, mais en leur cachant soigneusement que Pema est une fille. Traumatisée par le bain de sang, la petite s'est jurée de venger les siens. C'était dans le premier tome de l'Armée de Sang, et j'ai oublié de dire et d'écrire que ça se passait dans le Tibet, quelque part dans une période, je veux dire, qui est... On sent qu'on est dans le début du deuxième millénaire. Mais pour l'instant, elle est en sécurité à Lhasa, confiant ses secrets à sa chèvre favorite. Et l'un de ses secrets, c'est justement de secrètement observer les moines faire leurs exercices physiques et spirituels. Un sacrilège, car un laïc ne doit pas connaître cet art martial. Que va-t-il lui arriver en se faisant prendre? Oh, devant ses exceptionnelles qualités d'apprentissage, surpassant en 3 mois d'observation des novices de plus de 5 ans, il sera intégré dans le groupe. Mais Pema Ling n'aura pas éternellement l'esprit en repos, en phase avec le Bouddha. Que se passera-t-il si elle, décide de venger son village en utilisant cet art sacré? Ce qui se passe dans le cœur de Pema Ling n'est pour l'instant pas le plus important. Ce qui inquiète le grand monastère, c'est que le grand lama est un vieillard sénile qui est devenu aveugle au sacrilège de son intendant. Que se passera-t-il quand le chef spirituel sera décédé? Pourra-t-on arrêter l'intendant corrompu sans que la succession ne tourne au bain de son? Des questions que Pema Ling serait bien incapable de comprendre. Georges Bess est un immense poète de la bande dessinée. C'est aussi un grand passionné du Tibet et du bouddhisme. Il a dessiné par exemple la série Le Lama Blanc sur un scénario de Jodorowsky. Et dans ce livre, il nous montre la cime du monde sous un angle à la fois mystique mais aussi brutal et violent. une saga forte et chaleureuse à l'incroyable beauté. Peymaling, le deuxième tome s'appelle Les Guerriers de l'Éveil, c'est dans la collection Repère chez Dupuis, et c'est par Georges Bess. De Keiji Kawaguchi, la série Zipang vient d'arriver dans le deuxième tome de sa traduction, dans la collection Big Kana chez Dargo. Oh, allez, un petit brin d'histoire. L'affrontement entre les États-Unis et le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale avait lieu non pas sur la terre ferme, mais principalement dans l'immense océan Pacifique. Une guerre où on se bat souvent que pour la possession de petits îlots, ou pour la domination maritime à coups de destroyers, de zéros et de porte-avions. Mais l'histoire ne va pas se répéter de la même manière cette fois-ci. De nos jours, le Mirai est un navire de guerre des forces d'autodéfense japonaises à la pointe de la technologie et de l'armement. Imaginez qu'un tel engin, un navire de guerre actuel, soit projeté avec ses armes, son armement, en pleine guerre du Pacifique, le 4 juin 1942, en pleine bataille de Midway. Un scénario qui est évidemment très proche du film Nimitz. Et après la surprise de l'équipage, se posent des questions éthiques. Doit-on changer ou non le cours de la guerre, prendre revanche sur l'histoire en aidant le Japon impérial, histoire d'éviter les holocaustes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ou faire profil bas vis-à-vis des futurs alliés américains et espérer retourner vers le futur par quelques opérations du Saint-Esprit. Finalement, c'est l'intervention qui sera choisie par les hommes du futur, involontairement en voulant sauver des vies. Armé du savoir du déroulement de la guerre, avec un destroyer capable de couler un porte-avions en un seul tir, peut-être que l'issue de la Seconde Guerre mondiale va changer. Et l'une des missions que l'armée japonaise impériale va proposer aux hommes du Mirai, c'est de sauver les soldats coincés dans l'archipel des îles Aléoutiennes, dont la valeur stratégique a fortement baissé après la victoire américaine dans la bataille de Midway. Bon, pour vous donner rapidement, je sors la carte là en radio, là pour ceux qui ont la couleur, puisqu'on inaugure aujourd'hui le service couleur, c'est pour ça que je suis en noir et blanc. Les îles Aléoutiennes, c'est l'espèce d'archipel qui perle le côté ouest de l'Alaska et qui va jusque la pointe de la Russie et du Japon. L'auteur Keiji Kawaguchi ne vous est pas inconnu. Ainsi, J'ai lu manga avait traduit la série Eagle, du même auteur, une série qui raconte la campagne présidentielle américaine vue par un journaliste japonais. Une bonne intrigue, menée de tambour battant, mais dont les prétentions réalistes sont parfois trahies par une documentation un peu légère. La période est intéressante, la période de Zipang, le point de vue plutôt rare dans nos contrées, c'est celle du Japon qui a été vaincu. L'histoire est épique, le propos fait réfléchir, puisque finalement on va apprendre doucement en essayant d'éviter les chocs, un peu ce qui va se passer pendant cette guerre et ce qui va se passer après, toutes les implications politiques pour le monde de cette guerre. La lecture, malheureusement, fait légèrement sourire sur des petits détails de vie quotidienne ou même sur les documents d'époque, tout simplement pour des petites histoires là aussi de précision. Mais bon, c'est pas très grave, comme la lecture de cette série est très agréable, eh ben on en fait rapidement abstraction. Zipang, tome 9, c'est de Keiji Kawaguchi, c'est dans la collection Big Kana chez Dargo. Supplément week-end, on va aller maintenant côté cinéma.
town, but when this world was born, but when the snow is formed, and then I am gone. You might think that I'm a fanatic, a phone call from you, tying up, throwing a bad ass, and kick it to the roof when we kick it all down. Jimmy Smith is my man, I wanna get more power. Taking the top.
Can I feel you to the fucking rim like Brim? I'm walking down your block and you say that's him. There goes the guy with the funky sound. The beat, see boys, and now we come to get down. Because I got the flow where I grab my dick and say,
oh my god,
that's the funky shit. So I'm gonna pass the mic and cause a panic. Yeah. The original amazing kid is going down.
Every morning took the train to the high street station. Doing homework on the train, what a fucking situation. On the way back up here in battle days, through the underground, underneath the sky. Zulu Beat Show, it's cool with Divas, busy me, that's one you should know. Enough of that, just wanna give some respect to SCA, grab the mic and my bell, thank you.
While it was a battle for the freedom fight, if there's a praise to the Lord, then I will feel alright. I'm feeling good, don't play a little music.
Music,
I wanna down my face, cause I love to do it. And no one can stop this flow from flowing on. The flow master of disaster with the sound is gone. Take a little shout out, shout out to the mom.
Yeah,
bringing me into this world,
it's so on. I'm picking broke down.
Les Beastie Boys, Root Down, Freeze On Mix. La chronique cinéma vous est présentée par Thomas en Dolby Mono Surround, son THX. Oui, je me suis fait avoir par mon baladeur.
C'était l'alerte Spice Girl qui était juste derrière, c'est ça?
Ouais, mais je suis content, tu vois, que l'ordinateur soit en train d'enregistrer parce que du coup, la régie pub, je leur ai dit, non, désolé, j'enregistre, donc il n'y aura pas de publicité à 12h30. Et ça tombe bien, il est 12h29, tu peux y aller.
Ok, donc aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui se déroule à la plage, c'est Miami Vice. Et c'est un film de Michael Mann avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong Li notamment. Et ça raconte les aventures de Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, les agents des stups qui sont en mission d'infiltration pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Au cours des missions, ils vont devoir réussir plusieurs missions pour leur commanditaire, pour remonter un peu la filière et pour se faire accepter. Pourquoi tu... Ah d'accord, tu t'es mis les lunettes de soleil.
Un peu obligé quand même, mince, Miami Vice.
Et au cours des différentes missions qu'ils vont devoir réussir pour monter un peu les échelons et puis pour voir toujours un peu plus le commanditaire qui est au-dessus du précédent, eh bien ils vont devoir reconstituer l'organigramme et soigner leurs relations avec les images clés, faire tout ce que font les agents quand ils bluffent, c'est-à-dire protéger leur fausse identité, essayer de les avoir au baratin, etc. Et accessoirement pour Sonny Crockett, tomber amoureux de la compagne sino-cubaine du Big Boss. Alors évidemment, alors ça, tout ce que je viens de vous dire, c'était l'enquête, mais en fait, on s'en fout un peu dans le film, j'ai l'impression, parce que elle sert juste de fil rouge. Bon, c'est un film. Tu l'as vu du sport ?
Non.
Alors c'est un film super tendu, évidemment, comme Michael Mann sait les faire. Hein, on se souvient notamment de Heat. Et bon, alors c'est un film d'action, c'est un thriller, donc c'est super tendu. Les gars, il faut pas qu'ils se plantent. Tu vois que c'est vraiment des psychopathes en face. Mais en fait, là où la mise en scène s'attache plus, c'est plutôt de faire ressortir justement ce qui est de l'ordre du ressenti. Faire ce qu'on peut appeler un thriller sensuel en fait, puisqu'on s'attache beaucoup plus au couple que forment pas Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, parce que c'est une paire au début qui, au fur et à mesure, on s'attache plus à leur copine, puisque c'est surtout la relation entre Sonny Crockett et Isabella Gongli et Rico avec sa petite amie Black qui appartient justement à son équipe de flics.
C'est quelque chose qu'on ne voyait pas jusque-là, pas trop dans la série.
Non,
ils n'avaient pas vraiment de régulière.
Ouais, mais enfin bon, Sony, c'est quand même le bon dragueur dans la série, hein.
C'est vrai. Ah mais là t'inquiète, hein, il te la retourne. Waouh. J'aimerais avoir son style, sa classe, y a pas à dire.
Ah ben, il faut apprendre à danser, hein.
Voilà. Non, pas de spoiler.
Je vois pas en quoi c'est un spoiler, de toute façon, bon, c'est pas grave. Donc le truc, c'est que c'est un film super sensuel. Alors. Évidemment, t'as les moments chauds, bon, voilà, ça se finit à l'horizontale et tout, mais c'est pas que ça. C'est, par exemple, au début, au lieu d'avoir l'inévitable scène avec le Black, avec Rico et sa petite amie, avant de faire la mission, tu vois, c'est pour montrer que c'est un mâle, tout ce qu'il y a de plus viril et tout, effectivement, il y a une scène sous la douche, mais, ils se croisent, on voit juste un gros plan sur la main de la fille qui caresse le dos, et tu vois plus le...
Elle est très sensuelle.
Voilà le rendu des ombres sur la peau, etc. Mais tu vois, c'est pas voyeur, c'est pas vulgaire comme dans des films policiers qui sont classiques en fait. Et justement, Michael Mann, il a toujours un peu tordu le cou aux idées reçues, enfin aux pensifs des films de genre, puisqu'il a toujours fait dans ce genre-là le genre thriller urbain, et il a toujours dynamité les toutes les scènes qui pourraient faire penser à du déjà vu. C'est-à-dire, t'as évidemment dans les films policiers, t'as toujours une boîte à striptease, les putes, les indiques crado, là t'as pas du tout de ça. Et c'est des films classe comme il sait les faire d'habitude. Alors je parlais de la scène de douche. Il y a aussi pour moi c'est une scène qui est vachement saisissante. C'est Sonny Crockett, il va vouloir draguer la fille et puis il lui dit j'aimerais bien boire un coup. Où c'est que tu voudrais aller boire? Qu'est-ce que vous voulez boire au fait? Je suis fan des mojitos. Bon allez, on va aller à Cuba. on va prendre le hors-bord. Tu sais qu'on dit ouais. Et puis là,
ça montre une chose justement que les gens ne connaissent pas vraiment, c'est la géographie de la Floride qui est entourée par plein d'îles. C'est-à-dire tu as les Bahamas, c'est à l'est et c'est effectivement à une heure de hors-bord. Tu as Cuba, c'est à 30 minutes, je crois, l'île de Cuba, vers le sud. Tu as les Florida Keys qui sont dans la suite. Donc c'est vraiment ce côté archipel que l'on voit pas vraiment immédiatement. Mmh. Et c'est, là, justement, c'est une manière assez élégante de le rappeler.
Non, en fait c'est t'as la Floride et puis t'as une espèce de pointe comme ça, un chapelet d'îles, un archipel, quoi.
C'est...
Ça s'appelle les Everglades. Mmh. Et au bout, après, si tu prends le bateau, t'as 35 bornes, je crois, pour arriver à Cuba, à la première île de Cuba, parce qu'il y a, également Cuba plus quelques petites îles. Donc, tu arrives à la première petite île de Cuba, ouais. C'est à 35 bornes, quoi.
D'accord. C'est là où tu vois beaucoup mieux, justement, l'enjeu des trafics avec des bateaux qui sont très rapides et qui peuvent partir n'importe où.
Et dans le sens inverse, les boat people, c'est-à-dire tous les gens qui essaient de se barrer pour aller du côté démocratique, entre guillemets,
voilà. Ouais.
Et bien, ce qu'aurait fait un cinéaste classique avec la poursuite d'hors-bord, il aurait foutu du rock FM à fond derrière. Je suis un mage, je vais te niquer et tout. Non, c'est pas ça. C'est que le mec il va boucler la ceinture de Gongli. D'habitude, ce sont des petits gestes genre mettre sa ceinture. Tu le vois jamais dans les films. Là, il boucle sa ceinture, il enlève sa veste, il lui demande de prendre le volant, il pose délicatement la veste derrière. Ce sont ces petits gestes aussi qui participent justement au côté vachement sensuel du film. Et ça, c'est tout à fait intéressant. En plus, ça se déroule toujours à la tombée de la nuit, puisque bon, de toute façon, Michael Mann, il a utilisé la HD qui permet d'avoir beaucoup de détails dans les scènes nocturnes. Donc là, évidemment,
c'est clair que la caméra numérique, bon, il y a un problème, il y a le grain vidéo quand vous filmez en zone un peu sombre,
ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a un détail qui apparaît, il y a des subtilités dans les lumières qui est très difficile à faire en argentique,
ouais.
Donc voilà.
Et c'est pour ça, il en profite totalement. C'est d'habitude, on a toujours des couchers de soleil ou des scènes qui se passent de jour. Et ben là, il va pas hésiter à filmer une séquence sous la pluie. Sous la pluie, on a d'ailleurs des beaux mouvements, des beaux plans d'hélicoptères survolant des chutes.
Superbe. On a vu de loin la ville de Miami qui se découpe très légèrement dans un ciel nuageux. C'est ouais. aussi, il y a, Enfin, les scènes sont assez superbes. Faut dire qu'ils ont eu une météo de merde.
Et des beaux plans d'avion aussi.
Faudrait qu'ils ont eu une météo de merde, ils ont pas été gardés.
Oui, avec les cyclones qui ont dévasté une partie des décors. Et voilà, ce sont des petites scènes qu'il essaie de mettre en scène d'une façon assez différente. C'est la scène de pluie, d'habitude c'est toujours un spleen, ou alors non, justement c'est pas un spleen, c'est pour avoir un caractère angoissant comme dans Seven, avec une pluie qui whippe le décor tout le temps pour accentuer un peu le côté. Voilà. Et ben là c'est pas du tout ça, la scène pluvieuse ça sert à justement souligner le caractère intimiste d'une séquence un dialogue entre deux personnages. On a beaucoup de plans où les flics marchent, justement c'est tout con, mais genre ils se dirigent vers leur mission d'infiltration, ils partent le matin, ils prennent leur sac, ils disent bon au revoir la copine, ça tu le vois jamais. C'est vraiment saisissant. Je sais pas ton avis, Xavier. Je sais pas si c'est ça que t'as retenu, mais
primo il y a ça, et puis secondo il y a le côté caméra portée, tout le reste, et ils s'enfoncent mais dans les barrios les plus crades, quoi, les villes champignons complètement miséreuses. On se dit c'est pas possible, ça a été filmé mais pratiquement à la sauvage, surtout qu'il y a cette impression de caméra portée ou bien filmée de très loin. On est vraiment embarqué dedans, on sent une angoisse énorme
d'ailleurs. Comme j'écoutais l'émission où j'étais pas, que du sport avait fait le dossier dessus, toi t'avais
c'était le 12 août dernier,
ouais, toi t'avais souligné le fait que dans la série on avait beaucoup de plans larges en fait, où on voyait vraiment les acteurs en présence des décors, et ça vraiment c'est Michael Mann, il a toujours fait ça, puisque de toute façon lui il a toujours la volonté d'ancrer ses personnages vraiment dans un univers urbain, et pour montrer que la ville, ben, leur boulot c'est vraiment la ville en fait. Et vous allez toujours me dire que je radote et que je suis monomaniaque, mais c'est quand même un truc antique qu'on trouve aussi dans le cinéma asiatique. Et c'est pas étonnant si je, c'est pas gratuit si je parle de ça, c'est parce qu'on a beaucoup comparé la filmo de Mann à la filmo des grands réalisateurs de polar urbain de Hong Kong, et notamment on peut toujours trouver une filiation.
Il y a Breaking News qui passe en ce moment sur Canal.
Ouais, Breaking News, et surtout Heat avait été vachement rapproché de OCTB, le polar de Kirk Kong. Avec la bonne fusillade, qui s'étend en longueur aussi, exactement pareil, avec le même bruit assourdissant des mitraillettes. Et Collateral, évidemment, fait un petit peu penser au PTU de Jonito qu'on a chroniqué ici, qui se déroule sur une nuit avec une ville quasiment déserte. PTU, Police Tactical Unit. C'est mieux ?
Ouais.
Voilà. Bon, ben voilà, c'est en tout cas ce qu'on pouvait dire sur Miami Vice. C'est faut pas trop voir le film comme quelque chose qui descend de la série. C'est plutôt
au contraire. Vous avez vraiment la série était complètement revisitée, ce qui a aidé pas mal d'ailleurs à mon avis, c'est le fait que Michael Mann n'a pas réussi à convaincre son cher copain de toujours de mettre la fameuse bande son.
Jeanne Hammer. Il lui a proposé, il a refusé, et pareil pour Olmos
qui a refusé également.
Qui a refusé, et c'est justement, on n'a pas perdu au change puisque c'est l'acteur.
Tu sais que ça a été dessiné, mais vraiment jusqu'au tout dernier moment, d'où cette séquence générique qui n'existe pas au début et qui est à la fin comme, moi ça m'a fait penser, le film avec George Clooney.
Ocean's Eleven?
Non, film de SF où tu as le générique
qui
est
tout à la fin.
Solaris, oui, c'est exactement la même ambiance.
Oui, mais ça s'est repris où t'as pas de générique au début et tu l'as à la fin, c'est assez courant maintenant. Et justement, on parlait du rôle du lieutenant Castillo. Je veux souligner la performance de l'immense acteur black Basha Kahane qui jouait aussi un amateur de jazz qui se fait buter dans Collateral. C'est quand même un habitué des films de Michael Mann, et vraiment, c'est pas la même chose que Olmos. Parce que c'est un gros black et tout, mais quand même il apporte assez de présence physique pour justement pour souligner qu'il y a hiérarchie. Ils sont pas en conflit avec l'hiérarchie, c'est notre pensif qui est dynamité par rapport au polar classique, c'est que il y a toujours le flic un peu tête brûlée, qu'il y a la hiérarchie, elle comprend rien, et on l'empêche de faire son boulot. Là ils sont soutenus à fond du début à la fin, et voilà. En tout cas c'est ce que je pourrais qualifier de blockbuster expérimental, en tout cas, puisque c'est quand même Xavier.
Moi, je reste absolument surpris sur la qualité de filmage, de tournage et vraiment d'ambiance et sur le final. C'est vraiment extraordinaire. Les acteurs ne ressemblent absolument pas, même dans les manières dont ils sont vis-à-vis des autres, par rapport à la série. Donc, il y a une œuvre qui est littéralement neuve.
Oui.
Mais ça donne vraiment envie de revoir du coup les précédents. Et puis voilà.
En même temps, avoir des flics qui se trimballent avec des t-shirts pastels sur de la musique de Sting.
c'est pas du tout l'original, c'est une reprise sur une compile réorchestrée.
Mais tu l'avais passé la pour le 12, non? Pas celle-là?
Pas exactement la même version. Toujours le final que je déteste dans cette version là. Ouais. Complètement loupé.
De quoi là, la fin là qui va venir après?
Ah, après là c'est.
Moi j'aime bien le boum. C'est ça
ouais,
que t'aimes
pas? Non, c'est le tank pit. Je trouve ça nul.
Bravo Xavier, on a compris de toute façon de quoi il s'agissait.
Radio FMR 89.1 MHz, 12h43, c'est le supplément week-end. Living till it renders you lights out. The supplemental strikes out. Help the hand I stand with. Through the thick and thin. Can't erase it cause it's permanent. Written in pen. Ain't no redemption man, I'm permanent. Sitting in sin. Circular fate. It seems I'm prone to relive it again. Lady luck, why you plucking those heartstrings to my melody? If fortune is mine, for the taking, why am I charged with these felonies? It ain't nothing but a chance, man. Are you telling me that I'm spiraling out of control? I die in spite of the soul of the art. Developing ways to fly and be fly. Let's see if she knows me now. She knows me now. She knows me not. 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 Case closed. Who knows the fate of such unknowns? Dice roll a hold a fifth to gamble to my snot nose. Lock those feelings of doubt. Feeling you out. I'm dropping the great divide. Blinded if I get out. Lost in the causes, consequences, effects of affection to the sponsorship and what it accomplishes. My hands, I gotta wash it with the office appalling. Yet the threat to follow it keeps calling. And the voice that to the ears is deep foreign. I reach for it, left with a fist full of smoke. If this is a joke, I'm not laughing. It's funny how the strangest things happen to the one who's engaged in actions. In love with the passion, beyond what the regular mortal can conjure up. All of us are victims, swimming in the fifth of bottle luck. But I got a lot of voice to immense to bottle up. And I pour out my heart like I got a lot of love. She knows me now. With the senses, mimic and vision, the difference. A simple pair of hands with the queen and the lady friend. Lost in a wave of better luck that I'm waiting in. Drowned in the good of the here and now, what I make of it. A work ethic of less chance and more effort. Ain't waiting for a handout, outwardly more restless. I plus more gusto, cutting the poor gesture. I must know lady luck, cuss with the full dress up. Lady luck, why you plucking those heartstrings to my melody? Fortune is mine, with the taken, why am I charged with these felonies? It ain't nothing but a chance, man. Are you telling me that I'm spiraling out of control? I die.
in spite of the soul of the part, developing wings to fly and be fly. Let's see if she knows me now.
Come for Feet featuring Mercury Waters, She Knows Me Now. C'est sur l'album Forget and Remember qui est sorti sur le label Tokyo Down, qui n'est absolument pas Tokyo Hit mais européen, puisque en fait ce sont des anciens demo makers, des mecs qui faisaient des musiques, vous savez, sur Amiga, Atari et tout ça, il y a un certain temps, et qui donc il y a 10 ans après on dit oh bah on va faire la musique comme ça pour nous, et cet album est librement téléchargeable sur le net. Et puis voilà. Du sport de suite qui va nous parler de la rentrée des classes dans le château, vous savez, sur TF1. Pas plus.
Moi je préfère mon lancement. Hein.
Du sport, bonjour.
Bonjour, rebonjour, rebonjour. Alors, beaucoup de choses. On va commencer par expédier vite fait le crash test entre les... Il y a plus beaucoup de revues, hein, là, je pleure de temps en temps pour dire merde, dans le temps on avait un super fanzine qui s'appelait Génération Série, qui était super, c'était le nec plus ultra en ce qui concerne les séries. Ça existe plus, bon bah ok, tant pis, hein, enfin en version papier du moins. Et ce qui reste, c'est il y a trois mensuels en fait, hein, qui existent sous l'appellation série. Il y a Série Mag, alors à éviter, sauf si vous avez entre 10 et 15 ans et que vous êtes pré-ado ou ado. Hein, c'est trop top. Hein, ouais. Il y a ensuite. Et ensuite, un presque nouveau venu, je vous avais parlé de son premier numéro, c'est Sériscope, dont j'ai le numéro 2 là en main, hein, qui est un bimensuel en fait, un bimestriel pardon, c'est-à-dire pour 2 mois, hein, là c'est le numéro de août et septembre, Sériscope, mais qui est dispensable, hein, et déjà c'est dispensable à partir du moment où ils vous disent en couverture des posters en plus et tout, là déjà c'est, tu te dis, ouais putain non, bon bah ok, à quoi ça sert, sinon bon bah on peut se passer un petit peu de sa lecture, hein, ça n'apporte pas grand chose d'intéressant on va dire.
Ah
hein,
bah si, il parle de Samantha.
Ouais, il y a Samantha Oops au programme. Alors c'est assez marrant, hein, parce que si vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, vous remarquerez que bon ben il y a pas beaucoup de différence au niveau des gros titres. Il y a Lost en gros, hein. Hein, ben, c'est normal, hein, c'est ce qui passe en ce moment.
La série qui a été perdue d'ailleurs aux Grammy Awards.
Ouais.
Mais ça, on en parle tout à l'heure.
Emmy Awards.
Emmy.
Grammy, c'est pour la musique américaine. Il y a quelques petits trucs qui peuvent être intéressants quand même dans Sériscope. À savoir, c'est les deux dossiers qu'ils font. Il y a un dossier sur Cosmos 99, donc du très vieux, un autre sur les... ouais, non, c'est même pas dans celui-là, c'est dans l'autre, quoi. Tu vois, il y en a qu'un.
Ah, oui, oui.
En fait, c'est dispensable, donc c'est pas la peine. Branchez-vous plutôt sur Série TV, hein. Alors là, c'est le numéro 32 déjà, hein, et bon, bah c'est pareil, hein, on va dire, on vous parle des séries qui passent en ce moment ou des séries qui vont bientôt démarrer. Il y a également un poster dedans, mais bon... le rédactionnel est quand même vachement plus intéressant, car il y a une bonne part de critiques assez pertinentes en ce qui concerne l'ensemble des séries, et surtout il y a des dossiers bien plus complets, on va dire, hein, sur des, ils s'attardent beaucoup plus sur les séries que ne le fait Sériscope, hein. C'est vraiment des trucs assez fouillés, des interviews, des articles de fond, enfin bon, c'est vraiment pas mal. Bon, ça vaut pas, de loin pas, mais de loin pas Génération Série, ça y a, hein, rien à dire, ou le défunt, je sais pas, le truc de que Carazé avait sorti, Destination Série, je crois,
oui.
Ça s'appelait, hein,
non, Destination Série, c'était à la télé.
C'était à la télé, mais enfin, il y avait eu une version papier qui était sortie, où à un moment, ils vendaient ça avec un DVD, mais ça n'a pas tenu le choc longtemps. Ouais. Dommage, parce que là, c'était vraiment du sérieux. Mais là, c'est quand même très très bien, parce qu'il y a beaucoup d'interviews, hein, et des interviews pas de mecs inintéressants, l'interview de Mandy Patinkin pour Esprit Criminel, interview dans Lost, interview croisée de différents personnages, dont celui dont le nom est très difficilement prononçable, c'est celui qui joue le rôle de Monsieur Echo dans Lost, Adewale, hein, Adewale Akinoyu Akbaje, hein, qui
l'ancien
Adebisi dans Oz, qui jouait le rôle de Adebisi, le Black dans Oz, hein, c'est le mec
paralytique.
Fait, non, pas le paralytique.
Non, non, c'est l'autre, celui qui fait partie de musulmans.
Celui qui a toujours le truc sur la tête, ouais, et puis il y a la question gimmick qui revient au cours des saisons, mais comment il fait pour tenir sur la tête vu qu'il est chauve, tu vois. Et il y a toujours un peu de tout petit bonnet sur la tête qui est de travers, et puis tu le vois jamais.
C'est pas lui qui jouait André Baptiste dans Lord of War.
Non, ça c'est Eamon Walker, c'est le mec avec qui il se retrouve en prison, et c'est d'ailleurs il se fait tuer par Eamon Walker, justement, le mec il se fait tuer dans la cinquième saison de Oz. Donc interview très intéressante, hein, de Adewale. On apprend que bon, il est nigérian, ça, d'après son nom, ça apparaît. Moi je pensais qu'il était ricain, mais en fait non, il est anglais. Mais il a émigré assez tôt aux États-Unis, hein, pour faire carrière. Et il est bouddhiste en plus. Ça c'est marrant, quand même, mec. Comme ça se retrouve à jouer ce type de personnage en plus, hein, parce qu'il a vraiment j'ai pas regardé la première saison de Lost. Enfin, comme ça, vite fait, en bouquinant, tu vois quoi. Et la deuxième, bon, quand il y a Monsieur Echo, ça commence à être un petit peu intéressant quand même. Sinon, il y a plein de trucs sur Galactica aussi, un très bon dossier avec une petite interview de Edward James Olmos, dans laquelle il dit que quand on lui a proposé Miami Vice, il a dit oh putain non, avec ce titre jamais je vais y aller. Et puis il est quand même allé, et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Et c'est pareil, hein, pour on lui a proposé le rôle de Adama, c'est-à-dire dans Galactica, la nouvelle version, et il a dit non, j'ai jamais fait de truc de science-fiction, ça m'intéresse pas du tout. J'ai jamais vu de truc de science-fiction en plus, quoi, tu vois, il avait déjà entendu parler. Et il a dit ouais, mais quand même, le seul truc qui l'intéressait, c'est qu'il soit parmi les premiers latino-américains à figurer dans le truc de science-fiction, parce que tu n'as pas de latino-américain dans la science-fiction, ça n'existe pas d'acteur latino-américain. Le précédent dans une série, c'est Robert Beltran dans Star Trek Voyager,
ouais,
qui ne joue même pas le rôle d'un latino-américain, hein, dans Star Trek Voyager, il joue le rôle d'un indien, un native américain, tu vois. Alors bon, mais bon, passons. Article sous Prison Break et tout ça, un très bon dossier, très bon article sur la franchise judiciaire New York District, hein, avec tous les petits trucs. Il y a deux erreurs, mais enfin bon, hein, ça va passer, on va passer quand même, hein, sur les deux petites erreurs dans ce truc-là.
Je peux vous dire qu'il y a des traces de stabilo rouge quand même, hein, donc doucement, on les avoue.
voilà, il vaut mieux acheter Série TV, hein, si vous voulez vous intéresser au monde des séries, plutôt que Sériescope. Voilà, pour les séries. Sinon, revenons un petit peu au cinéma avec une petite nécro, hein, c'est la mort de Glenn Ford. Quand j'en ai parlé au téléphone à Xavier, il m'a dit Glenn Ford, c'est qui ça?
C'est qui, c'est vrai?
C'est qui ça? Alors Glenn Ford, qui est pas américain d'ailleurs, il est né au Canada, à Québec, hein, mais il a immigré très tôt, il est né en 1916, donc il est mort à l'âge de 90 ans. À Beverly Hills, bien sûr, hein, c'est normal, hein, c'est là-bas qu'ils habitent tous, quoi, quand ils sont à la retraite. Il a émigré très très vite aux États-Unis, en Californie, où il a commencé sa carrière en étant palefrenier d'un acteur cowboy, Will Rogers. Et de son vrai nom, Gwilyn Samuel Newton Ford. Donc il a bien fait de tasser. Son premier film, il le fait en 40. Il en a fait plusieurs, hein, je veux dire, bon, dans les années 40, 50, les mecs, ils faisaient 3, 4, 5 films par année sans problème, hein, nickel, hein. Et en plus, pas que des merdes. Des fois, les mecs tapaient 2-3 films super dans l'année sans problème. Son premier film, donc, c'est en 1940, Heaven with a Barbed Wire Fence, c'est-à-dire paradis avec un
fil de fer barbelé.
Non, avec une palissade en fil de fer en barbelé.
Ouais.
Son premier gros rôle et son premier gros succès, c'est dans le film Gilda. Hein, qui est un film que tout le monde connaît, parce que bon, ben, hein, c'est Rita Hayworth qui enlève son gant, la fameuse scène et tout, et le mec qui est là, Pecno, qui est complètement baba, tu sais, le con parfait, le Pecno parfait, tu vois, en face de Rita Hayworth, c'est Glenn Ford. Ensuite, un peu plus tard, il a pas arrêté de tourner, hein, de toute façon, quoi. En 53, il fait The Man from Alamo, Le déserteur de Fort Alamo de Bud Boticher, en 53 encore, The Big Hit, ouais, tu écoutes bien, The Big Hit, en 53.
J'ai bien entendu.
Traduit, règlement de compte, un Fritz Lang, c'est le premier Fritz Lang qu'il fait avec lui. Alors là, c'est un film qui est pas mal, parce que il joue le rôle d'un inspecteur qui doit démanteler un réseau, hein, de la pègre et tout, mais ce réseau s'attaque à sa femme, à sa fille, il dégomme sa femme. Tu vois, bon, c'est du Fritz Lang, donc politiquement correct, laisse tomber, c'est pas la peine. Et il y a surtout une scène absolument magnifique à la fin où bon, bah,
Au début, il est vraiment neuneux, pareil, c'est-à-dire, ouais, il est là pour la légalité, il reste dans les rails, sans problème. Mais bon, une fois qu'on nique sa, enfin, qu'on tue sa femme, puis qu'on s'attaque à sa fille, là, bon, bah, ok, il commence à péter les plombs. Et il se dit, bon, bah, ok, hein, la justice, ça suffit pas, on va se faire justice soi-même et tout. Et, alors, il y a une scène absolument hallucinante, hein, c'est, le combat qu'il fait contre un des méchants, magnifiquement interprété par James Coburn, hein, qui était encore jeune à l'époque. Mais alors là, la baston avec James Coburn, je t'assure, on n'avait jamais vu Glenn Ford comme ça, hein, on l'a plus jamais vu comme ça après, hein. C'est absolument renversant, génial. Il continue l'année suivante à faire un autre film moins connu de Fritz Lang qui s'appelle Human Desire. Ensuite, on le reconnaît dans le film qui a été surestimé mais qui a fait vachement parler de lui en 55, tiré d'un bouquin de Evan Hunter, c'est-à-dire Ed McBain, Blackboard Jungle. Hein, avec le générique qui a la musique du générique qui a donné le départ au rock and roll, c'est Rock Around the Clock, hein, qui c'était
Dylan,
Blackboard Jungle. Donc il joue le rôle du prof, quoi, tu vois. Tu sais, à un moment il se fait pointer avec le couteau par Vic Morrow, quoi. Vic Morrow, c'est le mec qui est mort dans un accident d'hélicoptère dans le film de John Landis, là, la quatrième dimension, le film, tu sais, quoi. Il y a l'acteur qui est mort là durant le tournage. C'est Vic Morrow qui joue également le rôle d'une petite frappe aux côtés de James Dean dans La Rage de Vivre. Ah ouais, à côté avec Sal Mineo et tout, enfin toute la bande, c'était la même bande, hein, d'ailleurs, hein. Et ensuite il a tourné pas mal de western, hein, d'ailleurs moi là où je le préfère c'est dans le western où il a vraiment un truc pas mal. Alors il a tourné avec les meilleurs du western de toute façon, quoi, en 56 The Fastest Gun Alive avec Rod de Rouse, 57 3h10 to Yuma de Delmer Daves, en 58 Cowboy de Delmer Daves, en 60 Cimarron de Anthony Mann, il a tourné également avec Capra, Pocket Full of Miracles, Milliardaire d'un jour en 61, Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse de Minelli, il y est en 62, il joue dans, bien sûr, Paris brûle-t-il qu'on a pu voir à la télé dernièrement, hein, le film de René Clément, il est dans La Bataille de Midway, tu parlais de La Bataille de Midway, le film de 75, il y est, et c'est également le père adoptif de Superman dans la version 78, bah voilà, et il a continué à tourner jusqu'au milieu des années 80. Après bon, il se faisait quand même un petit peu vieux, et puis bon, vu qu'il se faisait vieux, t'en trouves beaucoup des rôles qu'on donne à des vieux comme ça, hein, conséquents. Non,
tu peux tourner avec les Tissot d'aujourd'hui.
Ouais, bah c'est ça, quoi. Voilà, donc Glenn Ford, paix à son âme. Sinon, parlons des Emmy à présent, hein, qui ont lieu le week-end dernier. Samedi dernier, donc les Emmy Awards, qui est l'équivalent des Oscars, mais pour la télé. Alors, les chiffres que je vais vous donner, bon, ils sont un petit peu anecdotiques parce que les Emmy, on va surtout parler des catégories qui nous intéressent les plus, c'est-à-dire les catégories les plus emblématiques, hein, mais il faut savoir que comme les Oscars, il y a également toute une série d'Emmy qui sont décernés aux meilleurs techniciens, aux meilleurs coiffeurs, aux meilleurs dresseurs de chiens, enfin bon, tu vois, des trucs comme ça.
Mais toujours pas aux producteurs.
Alors, faut savoir que c'est HBO qui a raflé la grosse mise avec 26 awards devant NBC 14 awards, ABC 11 awards, Fox 10 et CBS que 9. Alors NBC a quand même raflé 5 awards rien que pour la série My Name is Earl qui va bientôt débouler sur les chaînes françaises. Et il faut dire également que Lost, Desperate Housewives, ben ils ont trop de balles. Nada.
Alors il faut savoir à propos de Lost que donc le présentateur de la cérémonie c'est Brian O'Conan qui est un humoriste, c'est-à-dire un mec qui fait un talk show le soir et qui a un humour des fois qui est assez agressif. Et il avait fait une parodie. C'était un jet privé qui s'écrase en plein milieu du désert salé de la vallée de la mort, etc. Et certains ont trouvé ça particulièrement brutal et très déplacé. Pourquoi ? Ben c'était malheureusement la cérémonie a eu lieu le jour même où il y a eu un avion qui s'est écrasé. C'est un peu mal tombé. On aurait mieux fait de se passer, Donc NBC s'est excusé officiellement là-dessus. On le fera plus. Pardon, désolé. Famille, patrie, tout. Pardon.
Voilà. Bon, alors vite fait, hein, les gagnants des différentes grosses catégories. Alors meilleur acteur dans une série dramatique, c'est
Jack Bauer.
Exactement, Kiefer Sutherland. Quand même, bon, il y avait du beau monde, hein, en nominé. Il y avait Christopher Meloni pour Law and Order, Dennis Leary pour Rescue Me, Peter Krause pour Six Feet Under et Martin Sheen pour The West Wing. Alors tu vois, Martin Sheen qui l'avait gagné l'année précédente. Le meilleur acteur dans une mini-série ou dans un téléfilm, André Broger a gagné, hein, pour un mini-film qui s'appelle Thief. Il y avait quand même du beau monde également avec Donald Sutherland, John Voight dans le rôle du pape Jean-Paul II, Ben Kingsley et Charles Dance. Ah ouais. Il y a également le meilleur acteur dans une série comique, Tony Shalhoub, encore pour Monk, avec quand même en face, il y avait Charlie Sheen qui l'avait gagné l'année dernière pour Two and a Half Men, c'est-à-dire c'est quoi la traduction française, mon oncle, un truc avec mon oncle, je crois, un truc comme ça quoi, la traduction française. Enfin, une excellente série hein, de toute façon. Il y avait également Larry David pour Curb Your Enthusiasm. La meilleure nana dans une série comique, c'est Julia Louis-Dreyfus, hein, la cousine de Robert. C'est sa cousine hein, qu'on avait vue dans Seinfeld, qu'on a découvert dans Seinfeld.
La cousine de Robert Dreyfus.
Ouais, c'est la cousine, ouais, Dreyfus, bah ouais.
Non, mais je pensais à Richard Dreyfus, moi.
Non, la cousine de Louis Robert.
Du mec de l'OM, d'accord.
Voilà, du mec de l'OM, entre autres. dans une nouvelle série qui s'appelle The New Adventure of Old Christine. Et là, elle était quand même en compétition avec du beau monde, avec Lisa Kudrow, qu'on a découvert dans Friends, mais là c'était dans The Comeback, hein, qui raconte justement l'histoire d'une actrice qui a été dans une série à succès, mais qui après a du mal à se relever et qui essaie de se relever hein, du vécu. Peut-être Jane Kaczmarek, qui est excellente, hein, c'est la mère de Malcolm dans Malcolm in the Middle. Stockard Channing, hein, qui était là, nominé pour une autre série qui s'appelle Out of Practice, mais qu'on avait vu dans West Wing, c'était la femme du président de Martin Sheen, et Debra Messing dans Will and Grace. Meilleure actrice dans une série dramatique, Mariska Hargitay pour Law and Order Special Unit, ça c'est pas mal. En face d'elle, il y avait quand même Kyra Sedgwick pour The Closer, il y avait Gina Davis pour Commander in Chief, qu'on va prochainement voir sur M6, mais enfin la série n'a pas marché, elle a été déprogrammée. Frances Conroy pour Six Feet Under, et Alison Janney. Alors là j'ai un peu les boules, parce que Alison Janney, elle est vraiment très très bonne dans West Wing. C'est la nana qui joue le rôle de la porte-parole, celle qui affronte tout le temps les journalistes
et qui est obligée de rattraper les gaffes. Voilà.
C'est bonne actrice, vraiment bonne actrice.
Elle est alors, très très forte en plus.
Meilleure actrice dans une mini-série ou dans un téléfilm, là ça pète, hein. C'est Hélène Mirren qui a gagné pour Elisabeth. Faut dire que Elisabeth hein, a gagné 5 Emmy quand même, hein, c'est pas mal. En face d'elle, il y avait Kathy Bates, il y avait Gillian Anderson, le retour, Julie Davis.
Elle est vivante encore, elle.
Elle jouait dans une mini-série qui s'appelle Bleak House. Il y avait Julie Davis et Annette Bening. Ensuite, on va passer les seconds rôles quand même, parce que bon, second rôle dans une mini-série, c'est parce qu'il y a du bon monde aussi, hein. Second rôle dans une mini-série ou dans un téléfilm, c'est Jeremy Irons qui a gagné pour Elisabeth. Devant, il y avait Robert Carlyle hein, qui était nommé quoi pour Human Trafficking. Il y a également les guests aussi. Je vous ai repéré les guests, hein, c'est-à-dire les artistes invités dans une série comique. Alors c'est Leslie Jordan qui a gagné pour Will and Grace, mais il y avait Patrick Stewart pour Commandant Picard, pas pour Star Trek, mais pour une série qui s'appelle Extra. En même temps que Ben Stiller, qui joue également en invité dans Extra, Martin Sheen dans Two and a Half Men, donc où c'est son fils qui est l'acteur principal, et Alec Baldwin dans Will and Grace. Et il y a également meilleur acteur invité, meilleur guest dans une série dramatique, et c'est Christian Clemenson qui a gagné pour la série Boston Legal. Ce nom ne vous dit rien, mais comme je vous ai déjà rebattu un petit peu les oreilles avec Briscoe County,
voilà,
c'est le patron de Briscoe County, voilà, tout simplement.
Mais Boston Legal, je crois qu'il est question que ça arrive prochainement.
Ouais, ben à Boston Legal, il y avait également nominé Michael J. Fox, hein, qui avait arrêté parce qu'il avait des problèmes de santé dans Spin City, et il refait des apparitions quand même, et il a refait une apparition en tant qu'invité dans Boston Legal. Il y avait James Wood dans ER, il y avait Kyle Chandler dans Grey's Anatomy, et Henry-Anne Cusick dans Lost. Meilleure actrice invitée dans une série comique, c'est Cloris Leachman qui a gagné pour Malcolm in the Middle. Ah ouais, normal, hein.
Série est arrêtée.
Ouais, en face, il y avait quand même Kate Winslet pour Extra, Shirley Knight pour Desperate Housewives, Laurie Metcalf pour Monk, et Blythe Danner pour Will and Grace. Je crois que j'ai, page 2. Voilà. Ensuite, la dernière, c'est quand même les séries qui ont gagné. Hein. On a parlé des noms. Alors, on va la meilleure série comique, The Office, hein,
c'est une série de la BBC.
C'est une série de la BBC, mais
qui a été adaptée en France.
Qui a été adaptée en France, mais qui a également été réadaptée aux États-Unis.
Ah oui, c'est le Bureau.
Ouais,
oui,
le Bureau.
Exactement. Avec
En face, il y avait quand même Arrested Development, Curb Your Enthusiasm, Scrubs et Two and a Half Men. La meilleure série dramatique, c'est
24.
Exactement. En face, il y avait Grey's Anatomy, House, The Soprano et West Wing, tu vois.
Et Lost n'était même pas nominé.
Non, Lost n'a même pas été.
La meilleure mini-série. Elisabeth, je vous ai également nommé parce que toi t'arrêtes pas d'en causer, meilleur show quotidien, on va dire.
C'est le nul par ailleurs, voilà.
Voilà, c'est ça. Et c'est The Daily Show with Jon Stewart qui a gagné.
Énorme,
hein, parce qu'en face, il y avait quand même Conan O'Brien, David Letterman, et d'autres qu'on connaît un peu moins.
Il y avait Colbert aussi.
Ouais.
Parce qu'ils étaient ensemble au bout d'un moment, hein. Ils sont ensemble, en fait, sur une chaîne qui s'appelle Comedy Central. Et donc, le principe, on vous explique rapidement, hein, ce qu'il fait. C'est ce que va faire Ardisson à la rentrée, théoriquement, là, sur Canal. Mais ça, j'y crois absolument pas.
Ouais, puis Ardisson qui dit que c'est une idée originale. Alors là, on est tous morts de rire, quoi.
Voilà. C'est un mec qui prend des vrais sujets d'actualité avec des vrais reportages, des vrais interviews, trucs comme ça. Et il en fait un commentaire absolument brutal. C'est un éditorial qui a pleuré de rire. Il en a fait un cet été sur une spéciale de CNN qui s'appelait Target USA. Et après, t'avais le slogan de CNN: Get the facts, not fear. Et là, retour plateau, et lui qui dit: Get the facts, not fear. Même si on utilise la voix qui fait peur, même si on utilise la lumière qui fait peur. C'est à hurler de rire. C'est vraiment un éditorial où il massacre et où il retourne tous les effets de manche, tous les effets politiques. C'est très fort. Ça se trouve souvent d'ailleurs sur YouTube et tout. Mais par contre, faut avoir un bon niveau d'anglais quand même pour le suivre. C'est pas diffusé en France, c'est bien dommage.
Et je vous ai également noté la catégorie Real TV.
Ah
la catégorie Real TV qui a été créée, je crois, l'année dernière. Hein. C'est la première ou la deuxième. Hein. Et c'est The Amazing Race qui a gagné devant American Idol, qui est l'équivalent de la Nouvelle Star. Il y avait également Survivor qui était Dancing with the Star.
Et pas Simple Life.
non, c'est pas de télé-réalité.
Ça aurait été logique.
Non, c'est complètement monté, hein, donc ça.
Parce que le reste.
Voilà, pour les émis, vite fait. Alors, venons-en un petit peu à la rentrée télé. Alors, il y a quand même pas mal de choses, hein, qui vont débouler. Bah, là, cette semaine qui vient, là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et par contre, je vais pas m'attarder de trop sur le gros truc qui a annoncé à fond les manettes demain, dimanche soir. Bon, on est content. Hein, je me répète un petit peu. Je suis quand même content que des séries arrivent en prime time sur TF1 le dimanche soir à la place du film du dimanche soir. Ça fait plaisir quand même, hein.
Bah, ils se faisaient la tech par la 2 quand même, temps à autre.
Ouais, bah, c'est normal, hein.
Oui,
c'est
normal, hein. Ce qu'ils programment.
Pas déconner quand même, quoi, tu vois. T'as vu ce qui est passé dimanche dernier. Bon, arrête, hein. Pas déconner, quoi. Alors là, demain soir, ils ont décidé de taper à fond les manettes.
C'était oubliable.
Bah, dimanche dernier, c'était un film français qu'on a déjà vu 50 fois, et en face, il y avait Cold Case, quoi, tu vois. Alors bon, hein, hein, même si Cold Case c'est pas faramineux, super nickel, bien, c'est quand même vachement plus regardable qu'un film que t'as déjà vu 50 fois, quoi, sans problème, quoi. Alors demain, c'est quand même CSI, hein, demain soir, le fameux double épisode final de la saison 5, filmé par Tarantino, c'est culte, tu vois, mon gars. Oh putain, mais c'est culte. Oh, mais c'est culte, mais c'est culte, mais c'est culte.
C'est culte.
Alors, ce qui est quand même un petit peu plus chiant pour les gens qui ont l'habitude et qui sont un petit peu des aficionados des séries policières, on va dire, en général, c'est que c'est la troisième série cette semaine qui a le même thème. À savoir que là, on ne cherche plus dans le CSI demain soir, on ne cherche plus à résoudre un crime qui a été commis et puis que, tu vois, avec les éprouvettes, on va dire, putain, c'est vraiment du sang, ouais, c'est génial, d'accord, ok,
c'est lui. Tomber un poil à cet endroit-là, et en fait, ça veut dire que...
Là, on s'attaque à un membre de l'équipe, hein, ok, hein, c'est George Hitz, quoi, qui fait la pub pour le Real en ce moment, qui va se faire enterrer vivant. Donc l'idée vient de Tarantino, et c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal. Seulement, le problème, c'est que ça va passer en troisième position par rapport aux séries qui traitent du même sujet, qui ont eu la même idée. Il y a eu mercredi dernier dans Criminal Minds, l'excellente série à propos des profileurs, une équipe de profileurs qui bosse à Quantico en Virginie et qui traque des tueurs en série, des trucs comme ça. Et là, c'est chiant parce qu'ils ont foutu, c'est la fin d'une saison, et t'as l'épisode en deux parties. L'épisode, il s'attaque direct, le tueur en série s'attaque directement à l'équipe, et leur pose des pièges et des trucs comme ça et tout. Alors au départ, tu vois les mecs, ils partent tous, ouais, super, on part en vacances, génial, bon, vous me téléphonez pas. Alors tout, il y en a qui se tirent à la Jamaïque, t'en as Mandy Patinkin, c'est le patron, il s'en va dans une cabane au fin fond de la forêt et tout. puis il se fait livrer une tête coupée en Jamaïque, il se retrouve coincé avec du sang partout dans la chambre, enfin accusé de meurtre et des trucs comme ça et tout, et en fait ils se font piéger par un serial killer. Et c'est con parce que bon bah ça se termine sur une des nanas de l'équipe qui se fait braquer, puis hop, plus rien, terminé, attends la suite.
Ah,
et
ça s'appelle un cliffhanger.
Et la suite, c'est pas mercredi prochain, on sait pas quand est-ce qu'ils vont la diffuser, mais il va falloir attendre parce qu'il y a une nouvelle série mercredi
mais
prochain.
C'est le principe.
Ouais, mais bon, faut pas déconner quoi. Ensuite, hier soir dans NCIS, pareil.
Ah ouais.
Alors Marc Carmon,
j'ai fait l'effort de regarder ça en maniant la perceuse, j'ai été surpris du montage et du scénario.
Ouais, moi aussi, moi ça m'a.
C'est une série qui m'horripile par son ton fascisant et
ça s'améliore au fur et à mesure.
Mais
hein.
là, je me suis pris une claque.
Et là hier soir, il dégomme la nana là, bon ah ouais. Et là Marc Carmon, il est pas content hein. Alors t'as vu, généralement il est content, il est comme ça, bien cool et tout.
Imperturbable en disant on va t'envoyer à Guantanamo, tu vas être super, tu vas voir.
On va te niquer la tête. Alors là, on lui a dégommé un des membres de son équipe, là il était pas content du tout. Et donc demain soir, pareil, hein, on va enterrer George Eads et puis Grissom, il va dire ouais non, faut pas déconner, merde, ouais c'est bien du sang. Voilà, ça c'est demain soir.
Passe-moi le luminol.
Ouais, le lumineux. Des inédits alors pour cette rentrée géniale, ça commence alors on va faire ça à la suite hein, avec cet après-midi sur TMC à 16h50 dans la tradition des excellentes séries britanniques. Et TMC, eux, ils en ont une tapée hein, des séries. C'est ça qui est pas mal sur TMC, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de séries britanniques et de très haute qualité. Hein. C'est eux qui font tous les Hercule Poirot. Ils nous rediffusent les Sherlock Holmes avec Jeremy Brett.
Ah ouais, les grandioses.
J'en passe les meilleurs. Là, c'est une nouvelle série qui s'appelle Rosemary in Time. Le concept est un petit peu différent parce que ce sont pas des pros qui s'attaquent à la résolution de meurtres ou des petites choses comme ça, mais des gens qui se retrouvent par hasard comme ça mêlés à des meurtres et qui disent
à la Miss Marple.
Miss Marple, bon c'est plus ou moins son boulot quoi, je veux dire des fois on va la chercher quand même quoi, tu vois, pour qu'elle résolve des meurtres, tu vois. Bon,
vous voulez pas finir votre thé d'abord?
Alors Rosemary, c'est Felicity Kendall qui en fait est une enseignante qui perd son poste à l'université. Et Time, c'est Pam Ferris hein, qui joue le rôle de Tante Marge dans Harry Potter, qui se fait larguer par son mari. Donc elle a du temps et donc elle se retrouve mêlée par hasard à des meurtres. C'est cet après-midi à 16h50 sur TMC dans l'épisode Enquête au jardin. Et Rosemary and Time, ça vient de la chanson Are you going to Scarborough Fair? Parsley Sage, Rosemary and Time, une chanson de Simon and Garfunkel. T'étais pas né. Demain à la place de Jag sur France 2, donc à 17h, eh bien nouvelle série Jerry Bruckheimer qui cartonne à fond les manettes parce que là il y a deux nouvelles séries de Jerry Bruckheimer cette semaine. La première c'est donc DOS. Alors là c'est traduction française de Earring. Hein, c'est division opération spéciale. Alors qui nous raconte les aventures des gens qui travaillent au Pentagone, le Earring justement, avec casting poids lourd genre Dennis Hopper, genre Benjamin Bratt, le mec qui a tenu le plus longtemps avec Julia Roberts. Bravo à toi mon gars. Eh si. Mais la série, bah, elle a duré pas aussi longtemps que Benjamin Bratt avec Julia Roberts. Elle a duré que 20 épisodes. Et puis à dégager à la trappe comme quoi. Bruckheimer, des fois, il se plante aussi. Hein. Tu vois.
Ça arrive.
Eh ouais, ça arrive aussi. Une petite série dont on parlera un petit peu moins, mais qui peut être intéressante parce qu'elle n'est pas américaine, elle n'est pas anglaise, elle est australienne, c'est Pacific Homicide. Alors tu vois le titre, tu dis Pacific Homicide, encore une série sur des flics qui sont en Californie au volant de voitures décapotables. Non, là les décapotables sont de l'autre côté du Pacifique, en Australie, avec Freya Stafford et Peter O'Brien. C'est demain soir sur Série Club à 20h50, deux épisodes, un truc en deux parties, mort d'un flic en deux parties, donc demain soir sur Série Club dans Pacific Homicide. Sinon demain soir également la deuxième saison, là on a déjà vu la première saison donc c'est pas une nouveauté, mais c'est Re-Genesis. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que bon, la première saison s'achève sur le fait que Peter Otterbridge, c'est-à-dire le patron de cette unité scientifique, hein, qui est, c'est comme CSI sauf que eux c'est plus dans le bioterrorisme et des trucs comme ça quoi, tu vois. Et le patron de le chef de l'unité quoi, lui il est un petit peu à la masse et tout, il essaye de baiser tout ce qui bouge, il joue de la guitare à poil sur son salon, il picole tous les matins, il arrive, il a une gueule de bois comme c'est pas permis et tout, mais c'est un scientifique génial. Et durant la saison 1, il s'est mis en tête de retrouver le virus de la grippe espagnole qui a décimé je sais pas combien de millions de personnes en 1918, et il le retrouve dans un cadavre congelé au fin fond du pôle Nord. Tu vois, et il ramène donc le virus. Mais seulement problème, il y a quelqu'un qui pique le virus, et donc il y a une menace de contamination, tu vois, énorme, hein, parce que bien sûr.
C'est de la grippe, mais particulièrement mortelle.
Oui, mais c'est pas le H5N1, c'est un H5N3, un truc comme ça. Et donc, ils ont pas trouvé. Lui, il ramène ça parce qu'il veut trouver. C'est son vieux lingre. Il veut essayer de trouver comme ça à ses heures perdues. Comment on aurait pu faire pour vaincre la grippe espagnole? Et le problème, c'est que ça commence à se répandre et tout, et ça s'achève là-dessus, quoi. Et lui, il se barre, quoi. Parce que il a un peu les boules, il est un peu coupable. Bon, j'ai fait un petit peu plus. Et dans la deuxième saison, on va le retrouver où? En Chine. Ok. C'est demain soir, et c'est con parce que c'est très très tard, hein. Ça passe sur 13e rue. Demain soir à 23h50. C'est comme ça. Rediffusion jeudi prochain également, très tard, à 23h50. Sinon, j'ai également du soap australien, les gars, avec All Saint. Et comme c'est sur RTL9 de lundi prochain à 18h35, donc l'heure idéale pour passer un soap, hein, de toute façon, quoi. Et malheureusement, c'est RTL9. On commence pas par la saison 1, on commence direct par la saison 5, tu vois. Il y a quand même eu déjà 8 saisons, 250 épisodes. C'est un soap qui traite de ce qui se passe à l'hôpital All Saints General Hospital. Vous allez me dire, oh merde, putain, encore un truc comme ER, on a House, on a je sais pas quoi encore.
Grey's Anatomy.
Là, pour une fois, on s'intéresse au quotidien des infirmières. D'habitude, c'est toujours les toubibs, quoi, tu vois, les trucs comme ça, ou dans Scrub, c'est les apprentis médecins. Et là, c'est les infirmières. C'est-à-dire qu'ils sont généralement les souffre-douleurs des héros ou héroïnes des autres séries.
Des soirées étudiantes pour faire abonner plein de mecs.
Voilà, donc ça, c'est sur RTL9. Lundi à partir de 18h35. Sinon, mardi, c'est pas la première diffusion. Il y a déjà eu des épisodes diffusés mardi dernier sur 13e rue. C'est une série allemande qui s'appelle Unsolved, qui est un petit peu la même chose que Cold Case, hein, c'est-à-dire la résolution de cas qui ont déjà été traités, mais ils reprennent les affaires 5-6 ans après parce qu'il y a un truc qui déconne. Ou qu'il y a un nouvel élément et tout, quoi. Et mais bon, la nouveauté, c'est que c'est allemand, quoi, tu vois. Alors ça peut être intéressant. Et j'ai regardé le premier épisode double mardi dernier. Vraiment, c'est pas mal, c'est sympathique, hein. Interprété donc par l'inspecteur principal qui est surnommé l'éléphant dans la série, interprété par un mec qui s'appelle Thomas Harbacher. Et il y a également dans son équipe Katharina Abt et Nils Bruno Schmidt. Ça s'appelle Unsolved. Donc c'est bizarre, hein, parce que c'est une série allemande. Ça se passe à Cologne, à mon avis, d'après les immatriculations de bagnole. Et puis que c'est tout neuf, quoi. Alors bon, c'est normal, hein, parce que mon Cologne, ça a un petit peu été détruit.
Il y a eu des bouts de deux heures.
Alors ça passe mardi prochain à 20h, à partir de 20h50 sur 13e rue. Il y a deux épisodes. Le premier, c'est le deuxième homme. Et le deuxième, il s'appelle Histoire de Salon. Sinon, on vous en abreuve à fond les manettes et tout. On fait une soirée spéciale et tout. À un moment, on disait, ouais, TF1 va le diffuser en prime time, tout le bordel et tout. Ils se sont dégonflés comme d'habitude, hein. Ils vont attendre que ça marche. Ensuite, ils vont récupérer le truc.
Rassure-moi, tu parles de la Starac, hein.
Non, c'est Ghost Whisperer. C'est encore une histoire de trucs surnaturels, de nana qui parle aux morts et tout. C'est un petit peu comme Medium, tu vois, quoi, un petit peu le même genre de truc, hein. Et d'ailleurs, le conseiller technique de Ghost Whisperer est le même que celui de Medium. Par contre, l'interprète principal, c'est là que ça vaut le coup, c'est Jennifer Love Hewitt. Ah ouais, excellente chanteuse au demeurant, quand même. Ouais. Aidée par cela, par Aisha Tyler et David Conrad. C'est mercredi prochain sur TF6 à partir de 20h50, deux épisodes. La première saison compte 22 épisodes, hein. C'était diffusé par CBS et ça a été reconduit pour une deuxième saison. Donc ça veut dire que ça marche quand même un petit peu. Alors donc deux épisodes de pilote qui s'appelle 30 ans d'errance et le deuxième j'aurai toujours 6 ans. Sinon on a également mercredi prochain un peu plus tard, et c'est ce qui remplace justement Criminal Minds, Esprit Criminel, hein, la série qui passait en deuxième partie de soirée sur TF1. Là, eh bien, une nouvelle série Bruckheimer, et là c'est dans un style complètement différent, on va dire. Ça s'appelle Just Cause en français, la traduction de Close to Home. Et en fait, on comprend Close to Home quand on sait qu'il s'agit de l'histoire de d'une substitut de procureur qui est une jeune maman. Donc, elle doit concilier les deux, sa vie professionnelle et sa vie de tous les jours avec un tout petit bébé. Tu vois, quand t'as le tout petit bébé, je t'assure, quand, bon, t'as un petit peu la tête ailleurs. Quoi.
Pas, ouais.
Voilà. Alors bon, ça peut être intéressant. Et puis c'est assez marrant que ce soit Bruckheimer qui produise un truc comme ça, quoi. Tu vois. C'est donc mercredi prochain sur TF1 à partir de 23h, deux épisodes. Le premier, Il n'y a pas de fumée sans feu, et le deuxième, Obsession. Et je termine avec, alors là, bon bah, on peut micro ouvert tranquille, on peut y aller hein, si vous l'avez vu, on peut en causer un petit peu. C'est la série qui est passée jeudi dernier, qui cartonne à fond les manettes, et que ah ouais, bah t'as viré le poster, bon tant pis, tant pis pour toi.
C'est celui-là.
Tu vois là, c'est pas joli ça, hein, c'est pas magnifique ça, regarde.
C'est sympa pour les auditeurs.
C'est sympa pour les auditeurs, ouais.
Ils ont qu'à payer à redevance couleur.
Il s'agit de Prison Break. Alors, Prison Break, dont on parle beaucoup, qui a cartonné à fond les manettes, ouais, aux États-Unis. Alors au départ, Prison Break, la première saison faisait 13 épisodes. Et voilà, hein, première saison 13 épisodes, et puis là, démerde-toi, c'est tout, quoi. Et puis bon, ça devait laisser la place à une autre série qui marche à fond les manettes, à savoir Lost, je crois, ou 24, enfin, Desperate Housewives, enfin.
C'est quelle chaîne, déjà?
Gros carton, hein, sur une chaîne américaine, je me rappelle pas laquelle, hein, c'est pas grave. Et comme ça a tellement bien marché, hein, que les fans, que les internautes, que les téléspectateurs ont dit non, putain, merde, c'est déjà terminé, ils ont retourné, pendant qu'ils passaient l'autre série sur la même case horaire, ils ont retourné des épisodes supplémentaires pour arriver à une saison qui fait 22 épisodes. Ils ont tourné 9 épisodes de plus pour la première saison. Hein, pour te dire que ça a marché à fond les manettes, hein, que ça a cartonné. Alors le principe, bah, c'est simple, hein, c'est l'histoire d'un mec qui se fait enfermer en prison pour sauver son frère qui est accusé d'un meurtre et qui va être exécuté dans un délai assez bref, de l'histoire de 2 mois, quoi. Donc le type, il a à partir de du moment de son incarcération, a pratiquement 2 mois pour faire sortir son frangin d'une prison. Et comment ça va se faire? Bah bon, on devine un petit peu au fur et à mesure que le mec, il a tout programmé, et que bon, bah, le mec, architecte de métier, a aidé à la rénovation de la prison en question. Donc il connaît un petit peu les plans et tout. Qu'en plus, il se fait tatouer les plans sur lui, tu vois, hein, histoire d'avoir le plan tout le temps, quoi, tu vois. Et c'est là que ça commence à fâcher dès le début, parce que on dit Prison Break, tout de suite on va faire un parallèle avec une autre série carcérale dont j'ai parlé, reparlé, qui représente quand même un sommet, hein, un des sommets en ce qui concerne
techniquement et scénario et
tout,
production,
tout,
c'est
tout, 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 interprétation, enfin tout ce que tu veux, tout, c'est, y a rien à dire, quoi, tu vois, y a rien à dire. Et la série Prison Break commence de la même façon, par une épaule qui se fait tatouer. En fait, c'est la fin du tatouage du mec, tu vois. Et là, la première grosse couille, la première grosse erreur, hein, et tous les gens qui se sont fait tatouer, bon, si vous avez déjà vu quelqu'un se fait tatouer, vous le savez, hein, le principe du tatouage, c'est ça, hein, de toute façon, c'est de faire pénétrer l'encre sous la peau. Donc ça saigne, et tu vois bien le gros pavé sur l'épaule qui saigne bien et tout, quoi. Et le mec, il commence à causer, la nana, la tatoueuse lui dit ouais, c'est marrant, généralement les mecs leur premier tatouage commence par un petit tatouage, puis ensuite ça évolue, et vous tout de suite c'est le gros truc et tout. Maintenant non, et puis hop, il remet direct sa chemise blanche sur le tatouage, tu vois, et puis bon, ça saigne pas, quoi, sur la chemise, quoi, tu vois. Bon, déjà ça commence, bon, bon, c'est pas bien, quoi, tu vois. Ensuite, bah on s'aperçoit que bon, la prison dans laquelle il atterrit, bah, elle est clean, elle est glamour, elle est vachement bien éclairée, et qui passe plus de temps dans la cour dehors, où l'herbe est super nickel, vert, bien, les allées, c'est coupé au cordeau, c'est nickel, t'as jamais vu ça de ta vie. En plus, dès le début, il se fait pote avec plein de gens, hein, bon, son combat de cellule, c'est normal, le latino-américain de service, et il y a les archétypes, hein, de différentes familles que tu peux rencontrer en prison, qu'on connaît dans Oz, hein, de toute façon, hein, c'est-à-dire le patron de la mafia, le fou furieux, le tueur en série, qui en plus là, il est tueur en série, et en plus il fait partie des fachos, c'est-à-dire des nazis, tu vois, enfin bon, la totale, quoi. Et bon, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois, quoi, c'est la prison glamour, quoi, tu vois, pratiquement, quoi, hein, t'as l'impression que ça va se passer très très bien. Il y a en plus, ça se passe pas uniquement qu'en prison comme dans Oz, où tu vois pratiquement que ce qui se passe à l'intérieur, hein, il y a quelques très rares scènes qui sont généralement des scènes de flashback qui sont situées à l'extérieur de la prison dans Oz. Là, la moitié pratiquement hein, du temps eh bien se passe en dehors hein, parce qu'il y a des personnages qui vont essayer de faire sortir également Lincoln Burrows, joué par Dominic Purcell, John Doe de Talk, dont son ex petite amie qui est avocate, ça, bah ouais, ça sert quand même, hein, quand même, ça, c'est plus pratique comme ça. Et ben non, parce que pourquoi ? Parce qu'il y a un complot. Oui, monsieur, il y a un complot. Et donc, hein, pour faire le pendant, si tu veux, de ce qui se passe, enfin, de ce qui ne se passe pas. Parce qu'il se passe pas grand chose, à part le fait que lui, le héros principal, quoi, Wentworth Miller, eh bien, il essaye de monter son plan. Il a tout prévu d'avance, de toute façon. Hein, il arrive, il se fait passer pour diabétique alors qu'il n'est pas diabétique, donc il lui faut des piqûres d'insuline et tout, quoi. Mais donc, mais comme quand tu shoots de la, si tu shoots de l'insuline que t'es pas diabétique, t'arrives quand même des petits problèmes physiques. Donc, il faut prendre des médicaments. Donc, il faut qu'il se procure les médicaments par le mec chez qui tu peux tout avoir en tôle et tout. À un moment, t'as une baston. Général dans la prison, bon, ce qui arrive aussi de temps en temps, t'as l'impression que t'es sur une scène de danse classique, quoi, tu vois. Enfin bon, non, mais c'est vraiment, c'est hallucinant, c'est assez hallucinant. Et ça, on te dit au départ que le rythme est soutenu, que t'es tenu en haleine du début jusqu'à la fin, que t'arrêtes pas et tout. Bon, je suis quand même allé pisser assez souvent pendant la série, t'en fais pas, tranquille, hein, c'est pas que je sois incontinent, mais enfin bon. Bon, enfin bon, c'est quand même assez dommage, quoi. Il y avait un point de départ qui était bien, qui était pas mal et tout. Alors, ce à quoi les inspirateurs de la série, les scénaristes répondent, oui, mais c'est pas un film de prison, c'est un film d'évasion, tu vois. Hein, c'est genre le film modèle Papillon, tu vois, quoi. Je sais pas si tu te rappelles de ce film, hein, Steve McQueen et tout, quoi. C'est plus un film d'évasion, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'on sait qu'il va sortir. On sait qu'à la fin de la saison 1, ils vont être dehors. Hein, là, ce qui se passe en ce moment, c'est de savoir comment il va faire pour le faire sortir. Toutes les couilles qui vont lui tomber sur la gueule et qui vont retarder un petit peu l'échéance, quoi, tu vois, pour qu'on arrive vraiment au cliffhanger, c'est-à-dire bon, à la fin de la saison, que juste quelques jours avant l'exécution, quoi, de Dominic Purcell, allez, tout le monde dégage, quoi. Et en principe, il doit sortir à deux. Non, ils vont sortir à vachement plus que ça, parce qu'il y a d'autres mecs qui commencent à être au courant, et puis bon, c'est pas forcément des mecs qu'ils voulaient faire sortir avec, quoi, tu vois, parce que bon, c'est pas forcément des mecs très très présentables. Enfin bref. Moi, je suis très déçu par cette série, enfin par les trois premiers épisodes qui ont été diffusés par M6. Ça passe le jeudi soir. Hein. Bon, je suis très déçu, quoi. C'est dommage, quoi. Il y avait quand même de la matière. Il y a quand même des interprètes qui ont roulé leur boss, Stacy Keach, en directeur de la prison, qui est passable, on va dire. Hein. Vraiment, c'est un faire-valoir pour l'instant, quoi. Dans les trois premiers épisodes, on le voit pas beaucoup. Le personnage. L'acteur qui interprète le rôle du fou furieux, c'est-à-dire du nazi qui est tueur en série, qui est décrit dans genre ouais, il a violé et tué plus d'une quinzaine de personnes, pas forcément dans cet ordre-là, c'est pour bien ajouter au truc. Bon, lui vraiment est très très bon, on l'avait déjà vu dans des rôles bien déjantés qui cartonnent bien, quoi. Mais bon, à part ça, bon, c'est pas top du tout, vraiment, je suis très très déçu. Très très déçu vraiment par Prison Break. Enfin bon, ça peut peut-être évoluer encore, mais bon, le mal est fait à mon avis.
C'était du sport qui vient de massacrer violemment donc une série, et cela signe un peu, je crois, la fin de Supplément Week-end, émission numéro 81. Mais ma foi, je crois bien, oui. Et ben, si vous avez manqué le début, Thomas va peut-être nous faire le résumé de l'émission.
Et oui, car si vous avez manqué le début, vous avez raté les lunettes de soleil de Xavier et son fabuleux treillis, la lumière braquée dans ses yeux et des posters en bagaille. Mais ça c'est con, parce que même si vous avez vu le début, si vous avez écouté le début, vous n'avez pas pu les voir.
On a aussi l'enregistreur en panne, s'il vous plaît, changez oui, le MD, quoi.
L'enregistreur en panne, on a aussi de la BD au Tibet, de la BD en Russie, un film sur la Floride, des Emmy Awards, la rentrée des séries TV et du Massacre en Ragune, série en prison.
Si vous voulez réécouter l'intégrale de Supplément Week-end, sachez que toutes nos émissions sont disponibles sur le net. Il suffit de chercher Supplément Week-end, Radio FMR ou Supplément Week-end MP3. Et non seulement vous les avez, mais en plus vous pouvez vous abonner, les recevoir automatiquement dans votre ordinateur, dans votre petit baladeur. Les réécouter comme vous le sentez, comme vous l'entendez, voilà, cela vous fait plaisir. Xavier et Thomas, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais que la place du sport qui est en train de programmer sa lecture.
Et la semaine prochaine, on fera un dossier sur Miyazaki.
Ouais, parce que là, on a vraiment, vraiment, vraiment du lourd, du très gros dans notre programmation. C'est quand même assez important. Et en attendant, j'inaugure ma nouvelle méthode pour faire commencer plus vite du sport.
Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais attends, parce que la semaine prochaine, tu vas voir, là, t'as rien perdu, là. Ok, un peu de sport quand même, et là, bon, bah, il est pratiquement 13h30, donc il me reste une demi-heure pour vous parler de tout ce que j'avais prévu. Ça va être très très difficile. Et en plus, comme j'ai foutu un petit peu le bordel dans mes papiers, je suis en train de ranger, là, en direct, je vais commencer quand même par... les dopés de la semaine, comme d'habitude, hein, pour reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ouais, pris par la patrouille, cool. Alors là, quand même, cet été, ça a été un été de folie, de joie incommensurable. Lance Armstrong, qui c'est qu'il y avait Floyd Landis, Marion Jones. C'est pendant que j'étais en vacances, en plus, Marion Jones. Aïe, 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 aïe. Et là, toujours de la testostérone, encore la testostérone, ça marche quand même, c'est le lanceur de poids finlandais, Ville Tiljan.